franceinter.fr.
Parfois, je ne sais pas si je vais me rappeler de quelque chose quand j'ai besoin de m'en rappeler. Parfois, je me souviens de choses lointaines alors que je sais même pas où je suis.
Les filles, vous m'entendez?
Yes, sir. We hear you.
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez.
On are to you.
Hey, boys! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
Una are to vous.
We're gonna be fine.
Now, go wait.
Allez, action!
Help me!
Action, pourquoi faire?
J'ai réussi à me faire comprendre et un serveur tout sourire m'a apporté une Tsingtao bien fraîche. La nuit va bientôt tomber et je vais continuer ma route vers l'ouest. Je respire et me dis que j'aime écrire, que j'aime voyager et que j'aime ce que le cinéma m'a toujours permis de vivre.
Et nous l'aimons, cet acteur qui sort de son précaré pour explorer d'autres frontières. Oui, faire un film peut être une aventure, celle-là l'a mené jusqu'en Chine. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Peut-être a-t-il inventé un nouveau genre littéraire, le carnet de voyage d'un acteur. Bonjour Melville Poupeau.
Bonjour.
Pendant le tournage en Chine de The Lady in the Portrait de Charles Demeaux, vous avez écrit un livre, Voyage à Film City, édité chez Pauvert. Un mélange poétique de réflexion sur votre métier, ses coulisses intimes et cette Chine que vous découvrez parce que vous êtes très curieux. Lui aussi va nous faire voyager, mais en restant dans un fauteuil. Bonjour Edouard Vintrop.
Bonjour.
C'est votre sixième édition à la tête donc de cette quinzaine des réalisateurs, cette section canoise tête chercheuse de nouveaux courants. Cette année, le voyage va nous mener en Amérique, Zambie, Colombie, Indonésie, Israël, Italie, mais aussi en France avec ce scoop. Claire Denis, oui, Claire Denis a réalisé une comédie et elle ouvrira cette quinzaine. Bienvenue à tous les deux. Les sorties de cette nouvelle semaine, un biopic, un grand restaurant, une revanche sanglante, une femme de 50 ans et des migrants birmans en Thaïlande, la belle surprise. Enfin, et cette émission sera dédiée à sa mémoire, la disparition cette semaine du réalisateur américain Jonathan Demme, auteur bien sûr du Silence des agneaux et de Philadelphia, mais aussi de cette comédie noire, dangereuse sous tout rapport avec Melanie Griffiths, ou de Stop Making Sense sur le groupe américain Talking Heads, avec le grand, l'immense David Byrne.
Te souviens-tu de ce voyage? D'un itinéraire? C'est très important d'essayer de reconstituer une chronologie.
Non, surtout pas. Il faut tuer les monstres. Voilà, c'est ça, nous avons tué les monstres. Nous étions des personnages. Des personnages de fiction. Perdus dans une autre réalité. Une réalité juste un peu distordue.
Aïe, 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 aïe. Comment trouver des informations sur une région à travers le récit d'un amnésique farfelu?
Voilà, c'est un extrait de Chimkent Hotel, votre premier film, Melville Poupeau. Votre première aventure avec Charles Demeaux entre l'Ouzbékistan, le Kazakhstan et le Kyrgyzstan. Encerclé par les talibans, avez-vous dit un jour?
À l'époque, ouais, c'était en 2000, c'était juste avant que Massoud se fasse dessouder.
Ouais.
Et c'était un tournage très mouvementé, on était très peu dans l'équipe, que Charles, en fait, en tant que technicien, Romain Duris, Caroline Dusset et moi, embarqués avec Charles pour filmer des scènes, non pas improvisées, mais on était les seuls à jouer au milieu d'une réalité qui n'était pas du tout au courant de ce qui se passait, de l'histoire qu'on jouait, des personnages qu'on était censés incarner. Donc il y avait une espèce de décalage comme ça entre ce qu'on voyait, ce que les gens percevaient de nous et ce que nous, on était censés faire pour la caméra de Charles.
Qu'est-ce qu'il a de si spécial, Charles Demeaux, pour le suivre jusqu'au bout du monde?
Oh, il a tout de spécial, il est effrayant et en même temps il est rassurant, il est très précis, en même temps on sait jamais vraiment ce qu'il prépare, il y a un côté très mystérieux, moi qui le connais depuis donc maintenant plus de 15 ans, j'ai toujours pas compris vraiment quels étaient ses moteurs, ses ambitions, sa façon de faire est très personnelle et c'est surtout quelqu'un qui privilégie l'aventure. Et le risque.
Mais on ne verra jamais tourner un film dans la Creuse, quoi. C'est
ça. Non, je l'incite. Moi, je lui dis, mais quand est-ce qu'on fait un petit film dans un appartement à Paris, un peu tranquille? Et il me dit, bah, c'est pas son truc.
Faut pas rêver.
Bonjour, Charles Demeaux.
Allô?
Bonjour.
Ah. Oui, bonjour.
Melville Poupeau a l'air surpris de vous entendre.
Ah, heureux. On s'est parlé hier, mais.
Je ne suis pas dans la Creuse.
qui d'autre que Melville Poupeau pourra accepter cette aventure? Personne d'autre, Charles Demeaux, non?
Écoutez, j'ai tendance à dire personne d'autre parce que Melville est un comédien et un ami exceptionnel. Mais enfin, il y en a quand même pas mal d'autres aussi. Mais c'était pas le premier film que j'ai réalisé avec Melville. réalisé un film à Paris.
Ah oui, c'est vrai.
Stan Vicks, et que Melville n'a jamais vu parce que j'ai perdu les masters.
C'est tout toi, ça.
Et sa mère, à chaque fois que je la croise, elle me dit en pleurant, mais il faut retrouver ses masters, c'est le meilleur film qu'ait fait mon fils. Et moi, c'est très bien du film non plus.
Vous êtes le personnage énigmatique de ce livre, Voyage à Film City, celui dont Melville attend des nouvelles, pendant que vous, de votre côté, Charles Demoux, en fait, vous essayez de faire exister ce film, et c'est compliqué avec les Chinois.
C'est parfois difficile parce que les ambitions, les façons de voir et les façons de comprendre le cinéma sont tellement différentes que c'est parfois difficile. Mais enfin, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire là-bas. C'est un enthousiasme et un désir de cinéma qui sans fin, quoi.
Vous ne savez pas parler en chinois, mais vous savez parler au chinois, dit-il dans le livre. C'est vrai? Vous y arrivez à communiquer vraiment?
À certains moments, oui, à d'autres moins, et à encore d'autres moments plus du tout. C'est plutôt une immersion dans un autre monde, dans une autre culture, qui permet de lancer et d'arracher quelques moments de communs.
J'ai l'impression que vous sous-estimez un peu votre combat, parce que Melville Poupeau, vous racontez dans le livre quand même que Charles Demoux a failli être viré.
Tous les gens qui ont travaillé en Chine, qui ont essayé de monter des projets là-bas, notamment dans le cinéma, se sont cassés les dents. C'est vrai que c'est très compliqué, c'est d'autres références, d'autres repères, barrage de la langue, mais aussi la façon de faire, le rythme. Donc je pense que Charles a fait un exploit, et surtout l'exploit, c'est qu'il a réussi à faire un magnifique film, très beau, qui lui ressemble, mais qui est aussi très universel, très romantique, sur la peinture, sur l'amour, le désir. Enfin, c'est vraiment une grande réussite, dans des conditions en plus difficiles, donc je suis vraiment admiratif.
Est-ce que le livre de Melville Poupeau correspond à l'aventure que vous avez vécue, Charles Demoux?
J'ai du mal à m'en rendre compte, j'ai été très surpris, parce que Melville ne m'avait rien fait lire. Donc j'ai découvert le livre, je crois, la veille de sa sortie. J'avais un petit peu peur.
Moi aussi.
Et j'ai été touché par ce livre. Après, j'ai du mal à complètement me rendre compte.
En fait, j'ai pas raconté exactement tout parce qu'il y avait beaucoup trop d'anecdotes, beaucoup trop de péripéties. Je pense que si Charles écrivait à son tour le journal du film, ce serait encore plus complexe, encore plus fourni en anecdotes et en obstacles. Mais j'ai essayé de rendre hommage à son travail, au travail de Fan Bingbing, la grande star qui joue l'impératrice, et puis aussi un peu à ses tournages qui prennent des risques et qui continuent l'aventure.
Laquelle Fan Bingbing, Charles Demoux sera juré à Cannes cette année?
Absolument.
Il va sortir quand ce film, The Lady in the Portrait?
Nous sommes en train de discuter donc avec les coproducteurs chinois et le distributeur français. A priori, ce serait plutôt vers la première semaine d'octobre.
Merci beaucoup. On vous laisse et j'espère que vous écouterez la suite avec notre ami Melville Poupeau. Absolument. Merci Charles Demoux.
Merci Charles.
Ce film, Melville Poupeau, raconte l'histoire d'un certain Jean-Denis Attiret. C'était qui cet homme?
Alors c'est un jésuite qui a vraiment existé au XVIIIe siècle, qui est parti à l'âge de 33 ans en Chine, enfin qui s'est engagé auprès des jésuites à 33 ans et qui est très vite parti en Chine dans une mission auprès de Castiglione, un autre jésuite italien qui est un artiste très renommé. Lui, Jean-Denis Attiret, c'était un peintre moins connu. Ce qui est tout à fait fascinant, c'est quand on est en Chine, on voit leurs tableaux sans savoir que c'est des Français ou des Italiens qui les ont réalisés, parce que c'est à la façon chinoise. Donc là-bas, il y a des représentations de l'empereur, de sa femme, de des gens de la cour, partout, à la chinoise, sauf qu'en fait, c'est des Européens, des jésuites en l'occurrence, qui les ont peints à l'époque. Et avec des noms d'emprunt, puisqu'on n'avait pas le droit de dire leur nom. Enfin, il y a toute une espèce de mystère autour des jésuites, et notamment en Chine. Donc moi, mon personnage, Jean-Denis Attiret, c'est Wang Chuchun. Là-bas, donc pour les Chinois, c'est Wang Chuchun, mais ils savent pas que derrière, il y a un type de doll, donc ce jésuite qui aussi avait un fils. Enfin bref, c'est des histoires. Les jésuites, j'ai pas vu le film de Scorsese sur ce sujet, mais c'est des nids à histoire, à aventure. C'est parce que les jésuites, c'est aussi à la fois des espions, des hommes de foi, mais aussi des guerriers, c'est des soldats de Dieu. Et puis leur saint patron, Ignace de Loyola, c'est quelqu'un de fantastique dont je parle un peu dans le livre, un aventurier.
Le mandarin, c'est compliqué.
C'est impossible.
C'est moins compliqué. Ah, c'est impossible.
Impossible. Bah, surtout dans le temps que j'avais, parce que c'est dans les histoires de tournage, c'est 2 mois de préparation, 2 mois de tournage. Donc j'ai réussi à apprendre phonétiquement, comme je raconte dans le livre, mes lignes pour pouvoir sortir quelque chose chose sur le tournage, notamment à la grande star chinoise, qui de temps en temps me regardait avec des grands yeux, parce que ce que je disais, c'était vraiment du yaourt.
Quand elle vous regardait?
Quand elle me regardait, ça, pendant les prises.
Où elle vous regardait.
Bah, c'est quelqu'un de très occupé.
Bien sûr.
Bah, c'est vraiment le mythe, donc on est très loin même du... J'ai côtoyé des grandes vedettes en France, même aux États-Unis, là on est encore dans une autre dimension.
À Cannes, elle va les affoler, hein, elle va arriver en retard partout avec...
Alors le truc, c'est qu'en France, je pense que le film de Charles aussi est très important pour ça, c'est qu'il fait découvrir une actrice magistrale, fantastique, qui va maintenant, à mon avis, va devenir une grande star internationale, mais c'est vraiment Charles qui l'amène en France, en Europe, en Occident. Donc je pense qu'il y aura surtout des fans chinois qui pour l'instant vont l'accueillir sur les marches.
120 millions d'entrées son dernier film.
Ouais, absolument. C'est du business. Je veux dire, elle est parmi les femmes les plus riches du monde. C'est vraiment quelqu'un de fantastique et qui est fan de Charles Demeaux et de son travail.
Vous avez adopté un code couleur finalement pour tenter de
parler. J'étais bien obligé puisque ce que je disais, je le comprenais pas. Je sortais une espèce de faux chinois. Et donc pour me souvenir de qu'est-ce que ça voulait dire, j'arrivais pas à mémoriser à la fois le sens des mots et des phrases en français et les dire dans une autre langue. Donc je me suis dit, bon, bah, telle phrase, ça va être plutôt, faut que je l'ajoute telle façon, avec dans le regard un peu de recul, telle autre phrase, plutôt de façon assez gênée. Enfin bref, toute sorte, une palette d'émotions que j'ai noté avec des couleurs pour être capable de quand même jouer la comédie, quoi.
Intrigant, Edouard Vintrop, ce livre d'un acteur voyageur.
Oui, il y a d'ailleurs un passage qui raconte bien à quel point c'est quelque chose de très bizarre. Melville fait la comparaison entre donc Charles Demeaux qui va faire le film là-bas sur la cour de l'empereur et l'équivalent un peintre, enfin quelqu'un, un chinois qui viendrait en France faire un film sur Louis XIV sans connaître le français.
Ouais.
Et on imagine bien en effet quelle sera la réaction à ce moment-là des Français. Et il ajoute, il y a qu'à voir déjà comment les gens réagissent quand ils se font servir leur café le matin un chinois dans un bar.
Ouais, c'est vrai, parce que il y a une telle influence, il y a une telle porosité. Maintenant, les Chinois sont tellement présents sans qu'on sache vraiment leur parler, communiquer avec eux, sans les connaître. Donc je vois dans les bars, dans les PMU, c'est souvent des Chinois maintenant derrière le comptoir. De l'autre côté, c'est des clients normaux, mais il n'y a pas vraiment de connexion, quoi. C'est un autre monde.
Vous êtes d'une patience infinie. Hein,
là, j'avoue que là, j'étais un peu au bout du rouleau à la fin des deux mois. J'étais bien content de rentrer chez moi, mais c'est aussi pour ça que je choisis ce genre de film. J'en ai fait plusieurs avec Charles, mais j'ai aussi fait d'autres films qui étaient un peu des aventures, des dépaysements en tout cas. C'est parce que au moins on est complètement déconnecté. C'est une chance de pouvoir pendant deux mois partir, de larguer les amarres, de plus avoir de contact avec la France et puis de s'investir dans un rôle, dans un projet, de vivre en communauté un peu avec l'équipe. Donc c'est aussi cette dimension-là que j'aime.
En communauté relative, parce que c'est l'histoire d'une solitude, mais une immense solitude permanente.
Ouais,
hein, quand même.
Sur celui-là, c'est
terrible.
Parce que le hiatus, en fait, c'est que Charles avait exigé par contrat que je sois traité avec les mêmes égards que la grande fan Bing Bing. Sauf que moi, je suis pas la grande fan Bing Bing. Je suis pas chinois, donc je me retrouvais dans des 5 étoiles, tout seul, isolé du reste de l'équipe, à zoner comme un pauvre malheureux, à essayer de me démerder pour commander à manger. Et c'est vrai que j'ai expérimenté la solitude. Mais ceci dit, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que le travail d'acteur, c'est aussi beaucoup de solitude. On est souvent loin de chez soi, tout seul dans sa chambre, tout seul au restaurant, travailler son texte. Enfin, je veux dire, ça fait partie du travail.
Et parmi vos modèles d'acteurs, il y a un certain Jean-Pierre Léo.
Je suis un cinéphile, pas un acteur. J'aime tellement les films que je me mets dedans. Là où il y a des bons metteurs en scène. C'est tout. C'est pour tout. J'en ai rien à faire d'être un acteur, d'être le machin, je veux dire tout. Non, j'aime le cinéma devant la caméra. Et je construis cet amour. Voilà.
Vous êtes d'accord avec lui, avec Jean-Pierre Léo?
Absolument. Non, mais c'est Jean-Pierre Léo. Bon, tout le monde sait que c'est un grand acteur. Il a fait des films parmi les films les plus connus du patrimoine français. Mais c'est aussi un grand... disons presque un théoricien du jeu de l'acteur, c'est pour ça que j'en parle dans mon bouquin, c'est que c'est un des rares acteurs qui a développé une idée sur le cinéma déjà, et puis sur la façon de jouer, et sur ce que c'est que de dire un texte, le body language comme on dit, une façon de bouger bien à lui, et souvent quand on lit des interviews, on se rend compte à quel point il a pensé la chose, et il a vraiment un point de vue unique sur son travail d'acteur.
Vous racontez que ce journal d'un séducteur, il répète son texte à l'infini.
Absolument, alors au début je me suis dit que c'était parce que par peur d'oublier, bon les acteurs ils ont toujours un stress sur la mémoire, mais je pense dans le fond que c'était pas du tout ça, c'était plus pour se débarrasser du texte, un peu comme je fais avec le yaourt chinois. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on sort un truc, on n'y pense même plus, on pense plus aux mots, on n'a plus qu'à jouer, à bouger, à jouer même des fois en contradiction avec les mots qu'on dit. Et ça crée ce jeu complètement atypique et unique de Jean-Pierre Léo.
Qu'est-ce qu'elle vous a appris cette expérience sur vous ?
plein de choses. Ce travail sur le langage, sur dans quelle disposition on est finalement quand on joue la comédie, et ça n'a pas été très développé par les acteurs. C'est vrai que c'est un moment à part, comme une espèce de transe ou une espèce d'hypnose. Quand on est devant la caméra et qu'on dit son texte, on ne pense pas ce qu'on dit. On récite un texte sans vraiment dire les mots. On est à la fois présent et pas présent. On fait attention aux marques, à la caméra, à son partenaire. En même temps, on ne les voit pas vraiment. Donc c'est une espèce d'état second et de transe.
Ça, c'est la Chine qui vous l'a appris?
Non, mais c'est la Chine et ce travail sur ce journal qui m'a donné envie de me pencher plus sur ce que sont les mécanismes psychiques mis en œuvre quand on est acteur.
Ça crée une distance, encore plus. Ce que vous dites, c'est qu'il faut la distance, quoi.
Il faut la distance. Elle est là, quoi, qu'il arrive. Et si elle n'est pas
Chine,
là, on
n'est
pas bon. Et en Chine, encore plus, puisqu'on est complètement isolé. Ça, ouais.
Vous restez avec nous, Melville. On rappelle donc le titre de ce livre, Voyage à Film City. Chez Pauvert, c'est un truc unique, quoi. C'est une expérience littéraire complètement unique. Ouais. La bio de la semaine est celle du nouveau film de Philippe Garrel, L'amant d'un jour, sélectionné à la quinzaine des réalisateurs cette année. Parole de Michel Houellebecq, interprété par Jean-Louis Aubert.
Qu'il faudra quitter ce monde, fais que ce soit en ta présence, fais qu'en mes ultimes secondes, je te regarde avec confiance, tendre animal au sein troublant, que je tiens au creux de mes paumes, je ferme les yeux, ton corps blanc est la limite du royaume.
Très belle BO
magnifique.
Du film de Philippe Garrel, Édouard Vintrop. C'est votre sixième édition cette année. L'ambition, c'est quoi? C'est d'être original, trouver de nouveaux courants, de nouveaux noms ou des noms anciens qui se renouvellent, c'est quoi? Non, mais est-ce qu'il y a, vous voyez, une espèce de cahier des charges?
Le premier cahier des charges, c'est déjà de faire plaisir aux gens qui vont venir voir les films. C'est déjà énorme. Donc, c'est de choisir des films qui nous ont plu en pensant qu'ils vont peut-être plaire à d'autres. Ça, c'est le premier. Ensuite, c'est vrai qu'on est très attiré par les gens qui changent de pied.
Ouais.
Donc, Claire Denis, cette année, par exemple.
C'est vraiment une comédie, alors, son film?
Ah oui.
Vous avez ri?
Ah, beaucoup.
D'accord. C'est vrai?
Et de plus en plus, je veux dire, en plus. Parce que après, d'abord, on est surpris parce qu'on se dit... Et puis après,
ça va pas.
Après, on rit vraiment. Il y a une collection de mufles qui est absolument extraordinaire. Mais vraiment extraordinaire et qui sont interprétés quand même de manière magistrale. Je vous conseille Xavier Beauvois, Nicolas Duvauchel et quelques autres. Il y en a vraiment des formidables.
Vous auriez pu vous faire voler ce film par d'autres?
Mais il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de vol, non. Et c'est,
il y a des emprunts.
Il y a des fois des emprunts, et puis il y a surtout, ça va où ça doit aller. Et puis, moi, je suis très, très zen, mais vraiment très, pour faire ce métier, il y a intérêt à être très zen, hein, de toute façon.
D'ailleurs, à la conférence de presse, vous disiez que l'an dernier, vous alliez à la piscine tous les matins pour bien vous fatiguer, pour voir les films dans un état de fatigue, tel que le seront les festivaliers.
Non, pour, simplement parce que je pense qu'on réagit beaucoup mieux au film quand on est bien rincé, c'est-à-dire en gros quand on n'a pas d'activité cérébrale, et que on réagit. Si on reçoit quelque chose très fort, c'est vraiment meilleur. Et puis en plus, quand on s'endort à un film, là, on peut arrêter.
On parlait de Claire Denis, elle fait partie des 7 femmes. Vous m'avez dit avant, on ne l'a pas fait exprès. 7 femmes cinéastes.
Bah, quand vous verrez les films, vous verrez que les 7 films de ces dames sont les plus originaux, sans doute, de la quinzaine et peut-être même du festival. Il y a vraiment une originalité incroyable. Elles sont là où on n'attend pas qu'elles soient, c'est-à-dire la Colombienne Natalia Santa ne fait pas un film sur une guérilla ou sur des trafiquants de drogue, mais sur un joueur d'échecs, un joueur de poker et un horloger. Et c'est des gens, elle a 30 ans, c'est des hommes qui ont entre 50 et 60 ans, et elle le fait avec c'est des personnages qui auraient pu être ceux de Monicelli dans Mes chers amis, et c'est pas du tout la même tonalité, parce qu'il y a une tendresse et une pudeur qu'ont pas les hommes quand ils racontent leurs histoires à eux. Et c'est vraiment très étonnant. Et l'Indonésienne, dont le titre du film est assez extraordinaire,
oui.
Si vous voulez, je vous le dis.
Oui, dites-le-nous.
Allez, on va essayer. Marlina Sipembunu Dalam Empat Babak, ça veut dire Marlina la meurtrière, enfin la tueuse en français d'ailleurs, ouais. En 4 actes. Donc de Mouly Surya, c'est un objet très très étonnant. C'est un vrai women's revenge movie, donc un film de revanche de femmes. Et c'est
un sous-genre.
Non, c'est un genre qui est très important aux États-Unis dans les années 70, c'est-à-dire au moment justement du surgissement du féminisme dans le cinéma américain. Et là, elle fait quelque chose d'assez beau en plus, où il y a beaucoup d'hommes qui meurent. De manière atroce en général, et c'est assez jubilatoire.
Il y a aussi une réalisatrice zambienne.
Oui.
Ça, c'est rare.
Alors,
déjà, la Zambie est rare en cinéma.
Oui, c'est rare. C'est en plus un film qu'on suivait depuis longtemps, parce qu'on connaissait Rungano Nyoni, parce qu'on l'avait... Elle participait à un atelier qu'on avait organisé au Danemark il y a 3 ans avec les Finlandais et les Danois, et elle était venue donc faire une sorte de doublon avec un cinéaste danois pour un court-métrage qui a très 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 bien marché, et on avait vu qu'elle avait un talent extraordinaire. On s'est dit, celle-là, quand elle va commencer à faire un long-métrage, il ne faudra pas la louper. Et on a eu de la chance, parce qu'en fait... Le film nous est arrivé à un moment où elle était assez désespérée, elle pensait pas arriver à finir le film, et quelqu'un dans son entourage, on sait pas qui, nous a envoyé le film. On a eu une réaction radicale. Je l'ai appelée le soir même en lui disant, c'est formidable, qu'est-ce que vous comptez en faire? Et du coup, elle dit, je vais m'en mettre à travailler parce que vous aimez ça.
Le film n'était pas fini quand vous l'avez vu, ça.
Il était pas loin, à mon avis, d'être terminé, parce qu'il avait toutes les belles choses qui doivent y être, ils sont, quoi, déjà. Donc, peut-être qu'il va retirer 3-4 minutes, j'en sais rien, ça c'est son problème. Mais nous, on l'a pris le film déjà dans la version qu'on avait vue. Il y a beaucoup de films qui sont prêts au dernier moment. L'année dernière, le documentaire sur Assange, le film était d'autant moins terminé qu'il fallait encore demander des droits, etc. Machin. Et cette année, il y a 2 films au moins qu'on a pris non terminés.
La fonction de sélectionneur est vraiment belle, hein, quand il s'agit de faire exister comme ça, de faire ressurgir des gens, des films. Vous êtes un peu des magiciens pour ces gens-là.
Je ne sais pas, nous on prend du plaisir, on essaye ensuite de le transmettre à d'autres. Donc moi, les magiciens, pour moi, c'est les cinéastes.
Oui, mais enfin, vous êtes des passeurs incroyables. C'est-à-dire, pour des gens comme ça, aller à Cannes et être montré à un public du monde entier, c'est quelque chose de fou.
Peut-être que pour des gens, en effet, qui viennent de territoires très lointains, c'est extraordinaire, mais leur talent, il est là. Nous, on est quand même assez surpris par, justement, pour prendre donc I'm not a witch, je ne suis pas une sorcière, de Rungano Nyoni. Moi, là, j'ai vu une magicienne, sans jeu de mots avec la sorcière, c'est vraiment une magicienne. Elle arrive à faire exister un monde incroyable. incroyable avec des moyens extrêmement moyens, comme dit l'autre. Avec des moyens moyens, on peut peu, mais elle, avec des moyens moyens, elle peut beaucoup.
Il y a un vieux de la vieille aussi qui sera là. Enfin, vous dites que c'est sa vraie maison, c'est la quinzaine. C'est Philippe Garrel. On a entendu la BO. Maintenant, on va entendre la bande-annonce donc de ce film, L'amant d'un jour.
Et la première fois que tu m'as regardé, tu te souviens ?
Non.
Tu faisais ton cours de philo. Et quand t'as dit « La philosophie n'est pas un divorce avec la vie », et ben tu m'as regardé. Tu t'es arrêté juste en face de moi. Je sais pas, je me suis sentie complètement toute nue. Et je suis tombée amoureuse de toi. Papa, c'est quoi la fidélité ?
Certains sont fidèles à des choses qui n'ont aucune importance pour d'autres.
Oui, mais par exemple ?
Parce que tu sais qu'une femme qui n'aime pas son corps peut pas être un bon coup.
Ah non, tu m'apprends des choses.
Ça fait combien de temps que t'es avec mon père ? Ça fait 3 mois. Ça te gêne ? De quoi ? Je sais pas qu'on a le même âge, toi et moi.
Oui, je crois bien que je l'aime.
Et tu l'aimes pour ça ? Parce qu'elle a un grain. Les hommes, ils trompent sans préavis et ça les dérange absolument pas. Mais il y a un truc qu'ils supportent pas, c'est que les femmes fassent pareil. Donc au final, il n'y a qu'une solution, c'est de faire pareil.
J'ai été comme toi longtemps. Fais souffrir des femmes qui ne méritaient pas ça.
Va falloir que je fasse gaffe.
Je te le conseille.
Melville Poupeau, vous nous demandiez le nom de ces acteurs. Eh bien, elles sont incroyables. C'est Esther Garrel, qui est assez fascinante hein, comme actrice. Louise Chevillotte et Eric Caravaca. Voilà. Pourquoi la maison de Garrel, c'est la quinzaine et pas la sélection officielle?
Ça
m'a yaourté.
La dernière fois qu'il est venu donc avec L'ombre des femmes, ça a été une fête. Je pense qu'il est venu avec une très grosse pression et il savait pas trop où il allait. Et puis il a vu que ça a été festif réellement, lui-même d'ailleurs, avec ouvrant la quinzaine des réalisateurs en disant « est ouverte la quinzaine des râleurs !» Et nous, on attendait celui-là, on attendait ce film pour voir où il allait, et ça nous a plu beaucoup, c'est un film extrêmement beau.
Ouais.
Et je sais que quand on leur a dit que nous, on serait contents d'avoir le film, ils ont pas hésité, donc c'est sa maison.
À la quinzaine, il y a aussi la remise d'un prix très important qui s'appelle le Carrosse d'or à l'initiative de la SACD. L'an dernier, c'était à Coris Maki, qui n'est pas venu. En revanche, cette année, il va venir. C'est Werner Herzog.
Alors, petit rectificatif, c'est la SRF qui est
SRF.
Qui est notre société patronne.
Oui, pardon, oui.
La société des réalisateurs de films qui choisit et qui donne le Carrosse d'or.
Mea culpa.
Mea culpa. On va écouter Werner Herzog.
Uns interessierte nicht so sehr, einen Film über die bergsteigerische Tat oder über Klettertechnik zu machen. Was wir wissen wollten, war, was geht in Bergsteigern vor, die so etwas Extremes unternehmen? Was ist die Faszination, die sie wie Süchtige auf die Gipfel treibt? Sind diese Berge und Gipfel nicht etwa eine Eigenschaft im Innersten von uns allen?
Vous êtes allé très loin en filmant, parfois très haut avec votre caméra, parfois profondément dans la terre. Et le but de tout ça, finalement, est-ce que, au-delà des lieux, c'était plutôt pour sonder l'âme, l'âme humaine?
D'une certaine façon, c'est une observation très exacte. J'ai toujours été intéressé par regarder ce qu'était au fin fond la condition humaine. Et parfois, il faut monter très haut avec quelqu'un. Ou parfois, il faut descendre très profondément dans une grotte pour découvrir ce dont il s'agit. Et il faut se référer à la grotte Chauvet, dans la région de l'Ardèche, parce que je suis descendu très profondément dans la préhistoire, et c'était étonnant. Une chose étonnante qu'on voyait là, il y a 32 000 ans, c'était le même genre d'être humain qu'aujourd'hui. C'était le réveil de l'âme humaine. Et on le voit se produire devant nos yeux.
Quand je disais, vous êtes allé très loin, très haut, très profond, c'est le côté physique de votre cinéma. il y a un côté performance aussi physique. Vous devez aller au même endroit où vont les gens que vous filmez. Il n'y a pas de truc. Il faut faire, faut y aller physiquement.
Yes, in a way, but
d'une certaine façon, oui.
Mais
j'ai souvent dit que le cinéma n'est pas quelque chose de cérébral, d'universitaire. Ça vient d'une connaissance physique de la façon dont s'occuper de l'espace, de l'occuper, comment créer une chorégraphie. Donc, j'ai toujours été quelqu'un de très physique plutôt. Et parfois, je dis que mes films sont des films faits à pied, parce que je voyage à pied, et j'ai compris le monde comme quelqu'un qui l'a franchi à pied. Je n'ai pas besoin d'appareils extrêmement sophistiqués pour faire mon cinéma. J'ai pas besoin d'effets numériques extraordinaires. Non, j'y vais simplement.
Werner Herzog, qui recevra le Carrosse d'Or à la Quinzaine des réalisateurs, à l'initiative de la SRF.
Oui, même, c'est avant même que la Quinzaine.
Ah, c'est avant.
C'est juste 5 minutes c'est... avant qu'elle commence.
D'accord. Et vous vouliez dire quoi sur Herzog? Sa longue histoire avec la Quinzaine.
Pour
déjà.
Nous, c'est un des fondateurs. Je pense que Pierre-Henri Delot a raconté et racontera encore, puisque on va fêter la 50e l'année prochaine en 2018, à quel point il a été aidé par certains cinéastes. Ouais. Et ses correspondants, c'était des cinéastes. Et Werner Herzog a été un des grands correspondants de Pierre-Henri. Et il a aidé beaucoup auprès du cinéma allemand.
Edouard Weintraub, donc cette Quinzaine qui va durer 11 jours et qui commence le 18.
Exactement, 18 mai.
18 mai. Vous restez tous les deux avec nous, Melville Poupeau également, même si vous avez une balance bientôt. On va écouter Faced, I'm Running Away, et après on parlera des sorties. Laurent, quels films ont marché ce mercredi ?
Eh bien Christine, au box-office, en première position, les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Ensuite, deux films français, premièrement Aurore, et en troisième position, Django.
Eh bien on va commencer par Aurore, de Blandine Lenoir. J'aimais bien l'affiche et j'aime bien l'actrice Agnès Jaoui, alors curieuse, j'y suis allée. Une histoire de femme de 50 ans, séparée, qui vient de perdre son emploi et apprend qu'elle devient grand-mère, et, dit le synopsis, entre en résistance. forcément, on s'attend à un minimum de réflexion et un minimum de féminisme, ce qui était fort réussi dans le film de Mirren Sandlove, L'Avenir. Que nenni dans celui-là, réduit à une gentille comédie sur la ménopause, la bonne copine hystéro, l'amour de jeunesse et une fin mielleuse. Dommage d'avoir traité quand même si légèrement le sujet, le réduisant le plus souvent à des interrogations de celles qu'on trouve à la une des magazines féminins sans jamais les approfondir.
Je suis entièrement d'accord avec cette approche de la presse, féminine en l'occurrence. Effectivement, on a l'impression de lire un gros article sur la ménopause, avec deux encadrés. Un encadré sur les Baba Yaga de Thérèse Claire, sujet passionnant, mais qui n'a rien à faire là. Et un autre encadré, alors là, télévisuel, avec Françoise Héritier-Auger, qui est une très très grande anthropologue, qui dit des choses extrêmement intelligentes sur la condition féminine. Seulement, c'est l'extrait d'une conférence qu'elle a faite. Donc, face caméra, il y a un petit écran de télé, et on voit un film télé dans un film. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est une absence quand même de cinéma qui est sidérante. Alors reste, vous l'avez dit, il faut le renoter, Agnès Jaoui, oui, dont on sait maintenant, depuis notamment le film de Bruno Podalydès,
ouais,
comme un avion. C'était Melville Poupeau. Agnès, si vous nous entendez, n'écoutez pas trop. Et donc Agnès Jaoui est formidable dans ce film. Voilà, comment faire ça, la transition, je vous laisse avec Django, Christine.
C'est un premier film de Étienne Comard, c'est le biopic, oui, oui, du célèbre musicien Django Reinhardt. Alors, on est en 1943, il est déjà considéré comme le plus grand guitariste de jazz du monde. Et d'ailleurs, Laurent, les Allemands vont tenter de l'utiliser, et Django, c'est le grand Reda Kateb.
Oui, absolument. Faut mener une réflexion sur le biopic, je trouve, dans le cinéma. On peut pas décréter l'arrêt des biopics, ça viderait les salles, manifestement. Enfin, en tout cas, les écrans, pas les salles, parce que les salles sont pas forcément pleines devant cette avalanche de biopics un peu incroyable. Le problème du biopic, c'est effectivement de mélanger un peu de fiction malgré tout, c'est-à-dire du cinéma, donc c'est pas du documentaire, un biopic forcément. Et là, on a un personnage féminin incarné par Cécile de France, qui est à la fois une amante, une mécène, une résistante, une collabo, une aide en évasion, etc. Oui, exactement, qui est un personnage complètement fictif, qui est là pour faire avancer effectivement l'action. Le problème, c'est que quand elle n'est plus là, eh ben justement, il n'y a plus d'action, et le film perd de tout son intérêt. Mais quand elle est là, en même temps, comme c'est de la pure fiction, ben le personnage de Django disparaît. Bref, c'est un paradoxe incroyable. Reste au milieu du film, un peu comme nous parlions de Agnès Jaoui, là on peut parler, et en beaucoup de bien, et en disant effectivement à nouveau que c'est un très grand acteur. Reda Kateb fait beaucoup plus que le job, c'est-à-dire qu'il incarne réellement Django, y compris musicalement, ça c'est très très beau.
La colère d'un homme patient de Raúl Arévalo, premier film donc de cet acteur espagnol qu'on avait vu dans La Isla Mínima. Patient il est, cet homme, d'avoir attendu 8 ans pour se venger d'un crime, un deuil inoubliable qui le conduira dans les zones les plus noires. Une colère froide, calculée, méthodique, un polar crépusculaire comme on dit, mais surtout sec et poisseux. C'est d'ailleurs le très bon choix du 16 mm qui accentue son effet brut. C'est un film haletant, déstabilisant, un peu comme son personnage principal, repoussant, puis attachant et finalement complètement radical. C'est l'acteur Antonio de la Torre, un film tendu comme un arc qui vous kidnappe, je trouve, physiquement et psychologiquement, Laurent.
Bon, je serais peut-être un petit peu moins dithyrambique que vous, parce que je trouve qu'au bout d'un moment, cette utilisation excessive des éclairs de violence, comme on peut trouver dans un certain cinéma américain, et pas n'importe lequel, je vous l'accorde, des années 70 et 80, Aldrich, McKimpa, etc. Ouais. Bon, donc ça a beaucoup de références, c'est effectivement souvent intéressant. Là, il me semble que de temps en temps, le cinéaste et donc son film se complaisent un peu justement dans cette généalogie-là, on va dire.
Mister Universo de Tizakovi et Rainer Frimmel. Il était une fois Teiro, jeune dompteur de fauves, dans un petit cirque itinérant des villes et villages de la péninsule italienne. Effondré par la perte de son fer à cheval, son gage de chance et d'amour, il va parcourir l'Italie à la recherche de celui qui jadis lui avait offert ce porte-bonheur. C'est Arthur Robin, ex-Mister Univers, dit l'homme le plus fort du monde. C'est un doc fictionné ou une fiction documentée?
C'est comme on voudra, et on aura raison dans les deux sens. C'est un petit bijou de cinéma, c'est une petite merveille, parce que il faut juste dire que effectivement, alors les deux auteurs d'abord avaient déjà notamment commis ensemble un film adorable qui s'appelle La Pivellina.
Adorable,
pardon. Et là, alors, il faut juste dire que s'il part à la recherche de ce mystère universel, vous le disiez, mais il faut le préciser, c'est que non seulement c'est lui qui lui a donné l'acier en forme de fer à cheval, mais c'est le mystère Pierre Universo qui à l'époque a fait le fer avec sa force, c'est-à-dire que c'est incroyable, ça c'est magnifique. Et il y a comme ça en permanence dans ce film qui est une recherche, une quête du bonheur effectivement, des petits moments incroyables, notamment une route italienne dont on prétend qu'elle est en pente, mais qu'elle est dans le sens de la montée néanmoins. C'est une scène totalement surréaliste où il y a des gens qui viennent nous expliquer pourquoi éventuellement c'est une descente, mais sur laquelle on montrait. Enfin bon, c'est un vrai poème, une vraie poésie, et tout le film est porté par ça, cette espèce de charme ténu, incroyable, avec des personnages auxquels on s'attache incroyablement. Et là, ça, je veux vous le dire, j'ai envie de vous le dire, ça se termine bien et c'est merveilleux comme ça.
Et donc, on est en forme cette semaine. Adieu Mandalay, ça c'est aussi une belle surprise, oui. De Midi Z, film birman. L'histoire de deux jeunes birmans donc, qui émigrent clandestinement en Thaïlande, tandis que l'une trouve un emploi de plonge dans un restaurant de Bangkok. Lui, Guo, est embauché dans une usine textile sans papier. Leur quotidien est plus que précaire et les jeunes couples ne partagent pas les mêmes ambitions. Si lui veut gagner assez d'argent pour retourner en Birmanie, elle est prête à tout pour obtenir un visa. Midi Z a enquêté pendant 3 ans en Birmanie et Thaïlande, où il a interrogé plus d'une centaine de résidents. Cela se sent et cela donne à ce film une véracité documentaire assez exceptionnelle, sans le cantonner dans le doc, mais une précision sur la condition, les gestes, les formalités, bref, le quotidien anxiogène de ces clandestins. Mais Adieu Mandalay est aussi une histoire d'amour pour une femme, de cet homme pour une femme qui s'interdit de la vivre, passe à côté en mettant toute son énergie dans l'obtention de ses papiers, la subsistance et le travail est plus important que l'amour, devenu une denrée totalement accessoire dans ce contexte dingue, celui de survivre dans un autre pays que le sien, une tragédie partagée en ce moment par des millions de gens. Voilà ce que ce film me raconte, une histoire non pas birmane, mais universelle et dramatique. Ça s'appelle Adieu Mandalay.
Je partage votre enthousiasme, et ceux qui ne croient plus à la lutte des classes ou à la condition ouvrière, donc allez voir ce film.
One Kiss de Ivan Cotroneo. Deux petits étudiants, deux petits lycéens dans une ville du Nord, enfin ils sont trois, jusqu'à un baiser qui va venir tout bouleverser. Trois ados confrontés à l'homophobie ordinaire.
Oui, alors on aurait envie de trouver sympathique ce film qui se veut sympathique, mais avec beaucoup, beaucoup de moyens déployés, notamment des moyens musicaux. On oscille entre Lady Gaga et Mika, histoire de faire des gros clins d'œil à la jeunesse à laquelle on voudrait forcément s'adresser. Mais hélas, au mieux, on est dans la boum, alors que ça voudrait peut-être lorgner vers Téchiné, tendance les roseaux sauvages, ou bien on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. C'est dommage parce que l'ensemble, en plus du film, ressemble effectivement à ces clips vidéo dont on a idée avec Lady Gaga ou Mika, et ça ne décolle pas, ça reste toujours à ce niveau-là.
Noma au Japon, réinventé le meilleur restaurant du monde. Je ne sais pas si vous connaissez Melville, ce restaurant qui a reçu 4 fois le titre du meilleur restaurant du monde. Le chef René Redzepi décide de fermer ce restaurant de Copenhague pour ouvrir une résidence de 2 mois à Tokyo au Japon. Le but, proposer un menu exceptionnel de 14 plats spécialement conçus pour l'occasion. Redzepi et sa brigade ont 6 semaines pour créer de toutes pièces un menu unique, innovateur. Voilà, et c'est un nouveau genre, c'est le suspense culinaire. Redzepi réussira-t-il à convaincre les Japonais avec des produits qu'il découvre et des recettes qu'il invente? Le tout mené à la baguette. Le type est un gourou. Et son équipe lui voue un culte, une équipe sacrificielle formée pour se dépasser, une performance mais dont il manque l'essentiel, la sensualité, le plaisir et la gourmandise.
Oui, on peut dire ça.
Complètement froid.
C'est vrai que c'est complètement froid, mais à l'image un peu de sa cuisine, en même temps, c'est un reflet. Ça reste intéressant pour moi sur une chose, c'est au fond, effectivement, il y a cette figure centrale de chef, mais autour, comme vous le disiez quand même, il y a une vraie équipe. C'est-à-dire qu'au fait, ça réhabilite l'idée que le cuisinier n'est pas seul, mais qu'il a autour de lui 5 ou 6 personnes, dont une femme, qui sont eux aussi des génies culinaires. Et le film, en quelque sorte, presque par défaut, presque en sourdine, leur rend profondément hommage. Et ça, c'est plutôt bien.
Ah oui, c'est les lumpen de la cuisine. Hein.
Oui, mais avec une vraie noblesse comme ça, l'exécution. Non, ça reste un documentaire intéressant.
On va terminer, Laurent, avec le Kore-eda, parce que vous l'avez révisé à la hausse. À Cannes, vous l'avez moyennement aimé et plus aimé parce que revu récemment. Ça s'appelle Après la tempête.
Second mea culpa de l'émission, c'est ma tendance en ce moment. Je me flagelle. Oui, non, bon, ben voilà, il se trouve qu'à Cannes, au bout de la 50e film, on peut parfois être un peu fatigué. Je pense que c'était mon cas quand j'ai vu le film de Kore-eda. Reeda après la tempête. Alors, ça, pour moi, ça ne rejoint toujours pas la veine très très noire que je préfère chez Reeda, par exemple avec Nobody Knows. Nobody Knows, ça, c'est un chef-d'œuvre. Donc, ça ne rejoint pas cette veine-là. Néanmoins, il arrive à faire des choses tout à fait étonnantes, comme filmer ce petit appartement familial dans lequel il va se passer beaucoup de choses intimes, beaucoup de choses avec des retrouvailles. Donc, vraiment, de temps en temps, comme ça, il y a des très très beaux éclairs de cinéma, magnifiques, et ça reste donc un vrai cinéaste japonais qui s'inscrit dans une tradition japonaise d'attention aux choses, aux objets et aux lieux. Donc pour ça, c'est très très beau.
On a 45 secondes pour donner des cadeaux à nos invités.
On va le faire quand même.
Bien sûr, et quel cadeau, parce que c'est un travail éditorial remarquable.
D'Akira Kurosawa, des films de ses premières années. On vous donne à l'un ou à l'autre, vous choisirez Les Bas-fonds ou bien Les Salauds d'Homme Tempé. Il n'y a aucun message personnel dans aucun des deux titres en question.
Moi, je prends Les Salauds.
Voilà, bon, alors d'accord. C'est une très très belle édition. Il y a en tout, je crois, 17 titres du maître Kurosawa de cette époque-là, chez Wildside. Et c'est vraiment une belle édition avec Charles Tesson qui intervient. Il y a du DVD et du Blu-ray en même temps, un petit livret. C'est magnifique. Et c'est, à mon sens, en tous les cas, un cinéma qu'il faut presque redécouvrir.
Les Salauds d'Homme Tempé, surtout, parce que c'est vraiment la veine noire de Kurosawa. Et c'est un des très grands films noirs de Kurosawa. Voilà.
Merci beaucoup, Edouard Vintrop, quinzaine des réalisateurs à partir du 18 mai. Et merci, Melville Poubou, pour ce livre Voyage à Film City, édité chez Prouvaire.
Merci.
Eh bien, c'est à vous pour le générique.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sportocantes a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Martine Messonnier s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Anne Weinfeld.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Edouard Vintrop, j'y étais.
Et moi, Melville Poupeau, j'y étais.